Francis Penge, vous dites et vous écrivez même « Il faut parler ».
Oui.
Et je me demande si on peut tout se dire. J'ai l'impression, hier, à propos du prêt, que nous n'avons pas été assez loin à propos de l'émotion.
Oui.
Nous sommes peut-être mal compris. Oui. Je vous disais que dans le fac-similé, il y avait une émotion très forte.
Oui.
Et que dans la version définitive, cette émotion devenait comme minimale.
Oui.
Alors, je voudrais que nous disiez comment vous êtes passé de cette émotion extraordinairement envahissante au point de vue de l'écriture.
Oui.
Et comment elle est passée dans une phase très, très minimalisée, si je puis dire.
Oui, enfin, pour les textes que je considère comme à peu près terminés, enfin, que je peux laisser aller. Comme le poème du prêt, enfin. Il y a une espèce de retenue et de secret de l'émotion, c'est-à-dire que la chose n'est pas explicitée, exprimée aussi nettement qu'elle l'est dans les brouillons, enfin dans les pages qui ont préparé le texte. C'est aussi parce que, enfin, je pense que ça y est quand même. Parce que lorsque je dis, par exemple, lorsque j'évoque le fait que la nature nous prépare des choses auxquelles nous sommes disposés, que nous sommes disposés à accepter, le prêt qui était là, par exemple, eh bien, quand j'ai ouvert ma fenêtre, j'étais tout à fait disposé, si vous voulez, prédisposé, même si on veut dire, parce qu'on peut employer le préfixe « prêt » à chaque instant. Il est là constamment, enfin, dans le langage français. Hein. Alors, j'étais prédisposé à recevoir ce prêt comme un bienfait, comme quelque chose qui allait me faire le plus grand plaisir. C'est ce que je veux dire, même dans la première, dans la première strophe du poème terminé. Et aussi, alors ensuite, quand je dis que, mais d'où vient que je sois retenu dans mon expression, n'est-ce pas, par des embarras, par ces choses qui se mettent en travers de notre route, aussi bien quand nous allions vers le haut de la montagne, n'est-ce pas, de l'endroit, pour regarder ensuite dans la promenade des gens le long de la rivière, eh bien, il y avait là un encombrement de ce qu'on appelle des scrupules, n'est-ce pas, au sens étymologique du mot, vous savez, c'est-à-dire les petits cailloux qui encombrent la marche, qui font que la marche, c'est le sens étymologique du mot scrupule, n'est-ce pas, etc. Enfin, alors, ça y est tout de même, enfin, quand j'évoque aussi, parce que c'est tout de même évoqué dans le poème définitif, c'est la séquence du clavecin solo dans le cinquième, je crois que c'est le cinquième concerto bourgeois, eh bien, où je dis que c'est quelque chose qui ne doit pas être de l'ordre de l'émotion, mais plutôt du mécanisme, pas de la raison, si vous voulez, mais de quelque chose qui n'est pas mélodique, qui ne chante pas, qui est comme la machine à écrire, quelque chose comme ça, eh bien, c'est tout de même l'indication d'un refrainement de l'émotion. Mais l'émotion y est. Mais elle est réfrénée au sens où on met un frein, n'est-ce pas, à l'émotion. On la freine. Ouais. Je crois que c'est cela. Je ne crois pas que mon texte soit dépourvu d'une émotion rentrée, réfrénée, mais qui est là, sous-jacente. Voilà.
Ce qui est très évident aussi chez vous, c'est que la contemplation se transforme en nomination.
Oui. C'est-à-dire que la contemplation est active. Elle n'est pas simplement le fait d'être là et de recevoir. C'est-à-dire d'être passive, enfin de recevoir. Elle est active, c'est-à-dire que je fais venir à chaque instant le sens de la nomination. C'est-à-dire que, vous savez, tout cela est dit de façon très nette dans un certain nombre de textes de moi. Par exemple, une des premières satires, je crois, qui est parue la première fois que j'ai publié des textes dans la Nouvelle Revue Française, est-ce que ce n'est pas déjà là, dans un texte, ou en tout cas c'est dans mon premier livre, qui s'appelle « 12 petits écrits », qui a été publié en 1926 chez Gallimard et qui aurait dû être, enfin, où le portrait, c'est dans une collection qui s'appelait Une œuvre en portrait, où le portrait devait être fait par Chagall. Et puis, il se trouve que je n'ai pas aimé mon texte, enfin, quand j'ai reçu les épreuves, et que j'ai écrit à Chagall en lui disant, écoutez, pardonnez-moi, mais je ne veux pas que ce livre paraisse finalement, parce que mon texte me dégoûte, et on fera autre chose plus tard. Et en effet, il m'a répondu, j'ai sa lettre, d'accord, dans laquelle il me dit, eh ben, un jour que vous serez content de ce que vous avez fait, nous ferons un livre ensemble. Et alors, à ce moment-là, j'avais refusé moi-même de renvoyer les épreuves, puisque j'étais mécontent de mon texte, et c'est Paulhan qui a fait une sorte de chantage, parce qu'il m'a dit, si tu ne renvoies pas les épreuves d'ici 15 jours, avec un bon à tirer, je prendrai moi-même à ma charge les frais de décomposition, de décomposition, de décomposition, etc. Et comme je savais qu'il était à peu près sans argent, enfin, comme beaucoup d'écrivains allaient à ce moment-là, eh bien, ça a fait une sorte de chantage. J'ai donc immédiatement convoqué une parente à moi, enfin, parente par alliance, qui avait épousé le frère aîné de ma mère, qui s'appelle Mania Mavro, et qui a fait le portrait qui apparaît, duquel on a tiré la gravure pour la collection Une œuvre en portrait. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que, en tout cas, dans un des premiers textes, je ne sais pas s'il est là-dedans, mais il y a un texte qui s'appelle Considération, qui s'appelle Contre l'évidence prochaine, je crois, quelque chose comme ça, où je dis, où j'emploie le mot considération. Et la considération, c'est le fait de regarder la nuit étoilée, n'est-ce pas, au sens étymologique, au sens augural, puisque con, ensemble, avec, n'est-ce pas, c'est le com latin, C-U-M, sidera sont les astres, sont les étoiles. Et la considération, c'est le fait de regarder la nuit étoilée. Alors, considération qui est employée d'une façon absurde, enfin, constamment, je vous assure de ma considération distinguée, etc. En réalité, c'est le fait de regarder la nuit étoilée, n'est-ce pas ? Et alors, c'est tout de même une façon de ne pas tenir compte des racines, des mots, d'employer cette expression dans des choses aussi banales que la considération à la fin des lettres en langue française. Alors, cette espèce de transformation presque immédiate de la contemplation en considération et en appliquant immédiatement l'activité de la plume. C'est-à-dire qu'il faut, à chaque instant, faire passer par la plume, c'est-à-dire par l'organe qui continue notre corps, n'est-ce pas, la faire passer dans dans l'écriture.
France Culture, vous écoutez le bon plaisir de Francis Ponge. Thank you. Vous avez été étonné du fait que les psychanalystes vous lisent?
Et oui, j'ai été très étonné, enfin étonné, c'est trop dire. Comme je l'ai dit souvent, les philosophes se sont beaucoup occupés de moi. Et parmi les philosophes aussi, les psychanalystes. Il est certain que j'ai été mis à contribution, de façon d'ailleurs qui me plaît, notamment par des disciples de Jung, pas tellement de Freud, mais de Jung, qui était, vous savez, une sorte de, pas d'adversaire de Freud, mais enfin c'est une autre façon de concevoir.
De notre famille.
Eh bien, il se trouve que on donnait, dans certains cas, des textes de moi pour des malades, des gens qui étaient dans des états psychiques déficients, enfin qui étaient à moitié fous, si on veut, enfin trop dire, c'est trop dire, mais enfin qui étaient déprimés. Et ça, je l'ai appris par des gens qui sont à la fois, qui connaissent mon œuvre et qui sont à la fois des disciples, ou des gens qui connaissent aussi, qui sont des psychiatres de la tendance de Jung ou de, comment s'appelle l'autre, je ne me rappelle plus, celui du ça, c'est pas
Grodeck.
Grodeck, oui. Oui, voilà, c'est ça.
Dans le prix, d'ailleurs, on est assez fasciné par cette volonté de répétition qui fait quelque part décoller le sujet proprement dit, c'est-à-dire le prêt.
Oui.
Je pense aussi au travail du rêve qui intervient. Je ne sais pas si vous en avez conscience lorsque vous avez écrit le prêt.
Le rêve, si, il y a un passage. Enfin, dans les notes, enfin c'est dans la fabrique. Ça n'est plus. C'est quand je m'allonge par terre, je désespère d'écrire le prêt. N'est-ce pas ? Et alors là, il y a dans le livre préparé par Skira, il y a un très beau Chagall, n'est-ce pas, le poète étendu par terre. Et ensuite, c'est la résurrection de l'herbe, enfin, qui me ressuscite, et le fait que l'herbe pousse fait que je peux me redresser moi-même, et je ne désespère plus de pouvoir, en quelque façon, faire le prêt. C'est le rêve, c'est aussi la déprime, enfin, la déprime au maximum. Parce qu'il m'est arrivé très souvent, enfin, de désespérer d'écrire un texte. Par exemple, pour le savant, ça a été très net aussi. J'ai désespéré, à un moment donné, de pouvoir faire une chose qui soit à la fois comme un galet et qui soit très volubile. C'était très difficile, évidemment, puisque le savant, c'est à la fois comme une petite pierre, n'est-ce pas ? Je parle de la savonnette, si vous voulez, plutôt que du savon de Marseille ou que du savon à barbe. C'est à la fois comme un galet, comme une pierre. Mais c'est une pierre qui devient formidablement volubile, c'est-à-dire qui fait de la mousse, dont on peut faire des bulles, etc. Enfin, c'est quelque chose. Évidemment, c'est très difficile de rendre compte d'un objet de ce genre.
Qu'est-ce que vous faisiez pour supporter le désespoir ?
Il m'arrivait, évidemment, d'être, pendant quelques moments, quelques instants, quelquefois un peu plus longtemps, très, très, enfin, incapable de quoi que ce soit, enfin, dans un éclat, dans un état de, oui, enfin, de, comment appelle-t-on ça ? Comme les cyclothymiques, enfin, comme les gens qui ont des moments de déprime. Chez moi, c'est relativement bref, parce que finalement, le désespoir n'est pas mon fait. Je suis contre à la fois l'expression du désespoir. Je crois qu'il ne faut jamais désespérer les hommes. Enfin, il faut leur donner que des choses qui soient, plutôt, enfin, qui les permettent de vivre, plutôt que qui les incitent à se suicider ou à je sais pas quoi, ou à tirer le revolver dans la foule, n'est-ce pas ? Le fait est que pourquoi la tragédie emmène la tragédie, mais la tragédie, c'est la catharsis aussi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que on monte sur la scène aux gens, des gens qui se tuent, etc., ben, ça leur permet de vivre ça au théâtre, plutôt que le vivre eux-mêmes, n'est-ce pas ? Et c'est aussi pourquoi est-ce qu'une tragédie, c'est quelque chose de beau ? C'est parce qu'on sort d'une tragédie d'un bon dramaturge, n'est-ce pas ? Qu'il s'agisse de Corneille, ou qu'il s'agisse de Tristan même, ou d'Eschyle, ou de Euripide, ou de Racine, on en sort plutôt content qu'il y ait quelqu'un qui est si bien parlé et fait assassiner des gens, ou de Shakespeare. On en sort content que ce soit si beau, si bien fait, n'est-ce pas ? Et on est content qu'il y ait des gens capables de rendre compte de ces choses-là. Ça vient au-delà, si vous voulez, la perfection de l'objet. L'objet, on sort content d'avoir vu une chose si belle, si bien faite, si harmonieuse, et on oublie qu'il s'agit de gens qui se tuent, qui s'entretuent, qu'il n'y a plus personne sur la scène. Enfin, dans certaines tragédies de Shakespeare, c'est fini, il n'y a plus personne. Enfin, tout le monde est mort.
Vous avez vécu souvent contre les choses, contre la parole, contre la poésie, contre les espoirs, et même contre l'homme qui arrive assez tardivement dans votre œuvre.
Oui, vous trouvez ? Moi, je ne crois pas. Je crois que l'homme y est dès le départ. Dès le départ, je ne sais pas si vous avez...
Drôlement caché, alors.
Ah non, pas du tout. Enfin, les premiers textes de moi qui ont paru, enfin, vous les trouverez naturellement. Ce n'est pas dans le Principal des choses, c'est un peu dans le poème tout de même. Mais c'est dans les 12 petits écrits. Et c'est dans... comment est-ce que je pourrais dire ? C'est dans les textes qui sont... que je n'avais pas publié, mais que j'ai publié plus récemment. Je crois que c'est dans le nouveau recueil, ou c'était quoi ? Où je fais des textes. Par exemple, j'ai fait un texte, quand mon père est mort, ça a été un traumatisme épouvantable, non seulement pour moi, mais surtout pour ma sœur cadette, qui a été traumatisée à un point, c'est effrayant. Et j'ai écrit pour elle le texte qui est une espèce de dédicace de mon œuvre tout entière à mon père, qui s'appelle La famille du sage, n'est-ce pas ? Et où j'ai décrit la mort de mon père, n'est-ce pas ? Enfin, le fait de mon père mort, et que nous autour, enfin la famille, ma mère, moi-même et ma sœur étions là, n'est-ce pas ? Dans la même chambre où il y avait mon père étendu sous un seul drap, n'est-ce pas ? Eh bien, là, il s'agit de l'homme, il s'agit de l'humanité, bien sûr. Et un des premiers textes que j'ai écrit aussi, qui a été publié sous la simple signature P, enfin, il n'y avait pas Ponge, dans Le Mouton Blanc, qui était un des premiers petites revues dans lesquelles j'ai commencé à écrire, avant d'écrire dans les grandes revues comme La Nouvelle Revue Française, Commerce ou Mesure. Enfin, c'est un texte où j'explique à ma sœur, justement à un moment où je m'étais volontairement fâché avec ma famille, mais où j'étais resté en relation avec ma sœur, qui donnait de mes nouvelles à mes parents, d'ailleurs, évidemment. Pour expliquer pourquoi j'étais devenu, mettons, socialiste, enfin en réalité, plutôt bolchevique, enfin, plutôt. Enfin, c'était écrit avant la scission de Tours, mais, donc c'était avant la séparation entre les communistes et les socialistes. Et c'est un écrit qui s'appelle Esquisse d'une parabole et qui est paru dans Le Mouton Blanc.
La notion d'objet, d'objet, d'objoie pourrait faire partie d'un art poétique signé Francis Ponge ?
Bien sûr, oui, pourquoi pas. Enfin, art poétique dans le sens où on emploie le mot, par exemple, pour l'art poétique d'Horace, n'est-ce pas ? Par exemple, d'Horatius Flaccus, qui était en fait une lettre, une épître au Pison, n'est-ce pas ? Qui était une famille romaine, enfin de l'époque d'Auguste. Eh bien, et on emploie le mot d'art poétique. Il n'y a pas d'art poétique. Il y a une espèce d'art poétique de Dubélé, n'est-ce pas, qui est assez bien, même très bien, et pour la défense et illustration de la langue française. Et puis il y a celle de Boileau, naturellement. Et, mais il y a aussi, si on veut, une espèce, enfin si vous voulez, dans Proust, par exemple, dans les dernières pages du temps trouvé, n'est-ce pas, qui n'a pas pu mettre au point, n'est-ce pas, il y a une espèce d'art poétique extraordinaire, d'explication de la façon, de pourquoi et comment il faut écrire. C'est très extraordinaire. C'est une, vous savez, qu'il n'a pas pu mettre ça au point, n'est-ce pas, il est mort avant. Quand je suis arrivé dans les milieux de la nouvelle langue française, Jacques Rivière m'a dit, oh, c'est dommage, Proust chercha, que vous ne soyez pas arrivé l'an dernier, Proust cherchait un secrétaire. Et moi, je l'ai remercié en lui disant, si j'avais été le secrétaire de Proust, ben, je serais considéré comme un homosexuel toute ma vie. Enfin, non, bon, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas contre les homosexuels, qu'ils fassent ce qui leur plaît. Je ne suis pas du tout contre, j'ai beaucoup d'amis qui sont des homosexuels, et des gens très, très gentils, très pleins de charme, et qui font admirablement la cuisine, bien sûr, et puis bien d'autres choses. Mais enfin, comme moi, c'est pas, ça me dit rien, enfin, ça me... Du moment qu'ils me foutent la paix, je les laisse tanguer. Enfin,
c'est assez curieux que vous glissez de l'art poétique à l'homosexualité.
Ben oui, mais enfin, c'est souvent comme ça. Enfin, le fait est que vous savez que la... Comment est-ce que je pourrais dire la, le contexte, enfin, de ce qui se passait, mettons, chez les Grecs, enfin, ou chez les Romains, du temps de Pétrone, ou bien avant, naturellement, ou même du temps d'Horace, enfin, ils faisaient pas... Ils étaient ambivalents, si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas... Enfin, eux, ils s'en fichaient que ce soit un garçon ou une fille, enfin, ils s'en servaient, mais puis c'est tout. Enfin, ils s'en servaient, et ils faisaient plaisir. L'esclavage était une façon de libérer les gens, en réalité.
Vous parlez d'écriture, là ?
Non, je parle de l'écriture, mais je parle aussi de la civilisation grecque et romaine. C'était une façon de libérer. Les esclaves étaient souvent... Ils devenaient affranchis et ils devenaient des citoyens romains avec le droit de vote à un moment donné. C'est-à-dire que c'était une façon de libérer un certain nombre de gens qui étaient d'abord considérés comme des guerriers vaincus, etc., qui étaient devenus des esclaves. C'est tout de même assez extraordinaire. Je crois que là, il faut pas exagérer la libération des esclaves, le fait... C'est absurde, c'est complètement idiot. Je crois, c'est très bien dit, d'ailleurs, dans la préface à l'histoire d'eau, par Poland, n'est-ce pas ? Vous savez qu'il a été... Il a été même traîné dans les tribunaux pour avoir dit qu'il y avait des gens qui aimaient, qui se sentaient beaucoup mieux quand ils étaient esclaves que quand ils étaient soi-disant libres. Oui, vous savez que c'était... Et c'était pour ça que la femme... dans Histoire d'eau, est heureuse d'être battue, d'être, etc. Enfin, bien que ce soit, à mon avis, très, très, comment dirais-je, le livre lui-même ne paraît pas très intéressant, ça me paraît la petite bière à côté du Marquis de Sade ou à côté d'autres érotiques, enfin.
Et vous êtes de quel bord ?
De quel bord ?
Du côté de l'ouverture ou de l'esclavage, pour ce qui est de l'écriture ?
Pour l'écriture ? Pour ce qui est de l'esclavage ? Je sais pas.
Non, c'était une contrainte, je veux dire.
Oui, mais moi je suis pour. Je crois que le mot de liberté implique l'idée de prison. Comprenez ? C'est-à-dire qu'il faut, n'est-ce pas ? On n'emploierait pas le mot de liberté s'il n'y avait pas d'abord la prison. La liberté, pourquoi faire ? C'est pour sortir de prison, enfin c'est tout. La prison, donc, est avant la liberté. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà, c'est tout ce que je pense. Je crois que les contraintes sont là pour permettre qu'on se libère, qu'on transgresse. Voilà. Et qu'on fasse une littérature qui transgresse les règles. Et c'est comme ça que la littérature continue. Sans ça, il n'y a pas de raison. S'il n'y avait pas cette nécessité, ces échecs, on ne continuerait pas. Si on avait trouvé le moyen de dire ce qu'on veut dire, eh ben, on ne continuerait pas. Il n'y aurait plus qu'à se tourner les pouces et puis attendre tranquillement, ce qui serait, enfin, déprimant, sans aucun doute. Voilà.
Comment voyez-vous aujourd'hui votre travail d'écriture ?
Je le vois. Ben, je le vois quand je lis mes textes. Je les vois et je constate que... Enfin, il y a très peu de textes, même les plus anciens, que je renie. J'assume à peu près tout ce que j'ai écrit. Hein. Je l'assume vraiment. Je suis même assez surréaliste, si vous voulez. Pour ça, c'est une des choses que j'ai gardées du surréalisme, c'est le fait d'assumer tout ce qui sort de moi-même, n'est-ce pas, de ne pas renier, n'est-ce pas, ce que j'ai fait, puisque finalement, je l'ai écrit, je ne suis pas un homme de regret, je ne regrette pas ce que j'ai fait, je ne regrette pas les attitudes même politiques que j'ai eues, qui ont beaucoup changé, mais je crois qu'il n'y a que les imbéciles qui restent toujours les mêmes, enfin. On félicite les gens de rester toujours dans la même idée, dans les mêmes expressions, de mourir comme ils sont nés, comme ils ont commencé à être. Mais comme tout change à chaque instant, pourquoi est-ce que les hommes ne changeraient pas aussi, et les esprits, puisqu'à chaque instant, tout change. Enfin, c'est complètement imbécile. Voilà, je vous remercie, et maintenant je vous libère. Et je vous prie de me libérer. Voilà. Bon, allons-y.
Plaisir de Francis Ponge, présenté par Jean Dev. Avec Jacques Derrida, André Duboucher, Jacques Dupin. Lecture de Francis Ponge, document INA. Réalisation, Jean-Michel Bernot, Daniel Bizien, Pamela Dussault.